Session de rentrée par le père Marie-Dominique Philippe, le 15 septembre 1996 à Saint-Jodard, première conférence.
On commence l'année scolaire à l'intérieur de notre vie religieuse. Séparer ces deux aspects, il faut les distinguer. Ce n'est pas la même chose. La vie religieuse et la recherche de la vérité pour elle-même. Ce qui nous unit ici, c'est premièrement cette recherche de la vérité. C'est pour cela qu'il y a une grande diversité. Il ne faut pas l'accentuer, mais c'est quand même bien que la diversité soit respectée. Et je demande à ceux familiale qui cherchait la vérité et qui il a cherché d'une manière étonnante. Et personne n'a reçu cette recherche de vérité avec autant d'amour, autant de zèle. demander à l'accueil. Et je demanderai à ceux qui sont à l'accueil d'être attentifs, de transmettre. C'est pas eux qui jugent ce qu'on doit transmettre ou pas transmettre. Donc de le faire avec simplicité et générosité. Nous essayons de faire une recherche loyale à l'égard de la vérité. Or, Thomas d'Aquin, au début de la somme, nous dit qu'il y a trois sagesses. C'est-à-dire trois voies d'accès vers l'absolu. La différence de la connaissance et de la sagesse, de la science et de la sagesse, c'est que la science recherche les causes propres et la sagesse recherche ce qu'il y a d'ultime. La sagesse seule atteint l'absolu. La science n'atteint pas l'absolu. Elle atteint quelque chose de très intéressant. Mais elle atteint les causes propres ou les lois propres. C'est pas la même chose, mais ici, la science a quitté la recherche des causes propres. Ce que faisait la philosophie. Pour chercher les lois. Et c'est toujours très important d'essayer de comprendre la différence qui existe entre une cause et une loi. Ça, j'allais dire que ça se fait petit à petit. C'est une question de critique extrêmement intéressante, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Mais ça se fait progressivement. Saisir les causes propres, c'est saisir les principes propres à l'égard de l'homme. Puisque la philosophie s'intéresse avant tout à l'homme. La science moderne ne regarde pas l'homme dans sa finalité, dans ce qu'il y a de plus lui-même, mais regarde le conditionnement de l'homme. Et avec de plus en plus de précision, tandis que la philosophie a un regard ultime, donc de sagesse. Il y a une sagesse philosophique. N'enseigne plus, hélas, dans les lieux officiels. On enseigne la philosophie, mais on ne regarde pas tellement ce qu'est la sagesse humaine. On enseigne des aspects, des lois, des sciences humaines. La recherche de la philosophie, sagesse, c'est la première sagesse, celle la plus fondamentale. Ça se fait très peu aujourd'hui. Il y a encore des lieux où ça se fait, mais ça se fait très peu. Pourquoi ? Parce qu'au fond, on ne recherche plus beaucoup la vérité. Si on recherchait la vérité, on serait obligé d'aller jusqu'au bout. Parce que la vérité est incertaine absolue. Et découvrir pourquoi l'homme existe-t-il. Quelle est la finalité propre de l'homme. Pour nous, c'est relativement facile de se mettre dans cette perspective. C'est capital. Chercher le pourquoi de la vie humaine. Chercher le pourquoi et donc la finalité. pourquoi je fais de la philosophie. C'est quand même intéressant de se poser la question. Alors certains répondront par obéissance. C'est évident. Beaucoup d'entre vous, c'est par obéissance. Parce qu'on n'est plus. Pourquoi faire de la philo? Pourquoi? C'est laïque que la philosophie. Eh bien non. La philosophie inclut l'aspect religieux. Et je ne peux pas être un homme religieux si je ne fais pas de la philosophie. C'est du reste pour ça qu'on n'aime pas beaucoup de philosophie réaliste, parce qu'on sait qu'il y a l'aspect religieux par derrière. Alors l'aspect laïque, vous comprenez? C'est plus très bien si vous voulez à droite ou à gauche. Suspens. Mais c'est ça qui est important à comprendre, et ça vous le comprendrez petit à petit, que je ne peux pas étudier l'homme dans tout ce qu'il est sans atteindre la finalité, sans atteindre la vérité dans son absolu, sans se poser le problème de Dieu. L'homme, dans sa sagesse philosophique, se pose la question, Dieu existe-t-il? Est-ce que je peux dire que je suis obligé, si je veux maintenir la vérité, regarder l'existence d'un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu. Et le mot Dieu est un mot qui est entré dans mon langage par les traditions religieuses. Ce n'est pas la science. Ça peut être la poésie. La poésie a l'avantage, quelquefois, d'être religieuse. Le commerce est difficile. Mais Dieu n'est pas dans le commerce. Et donc, c'est pas étonnant qu'au point de vue uniquement des études commerciales, on ne parle pas beaucoup de Dieu. Mais dès que l'homme apparaît, Dieu est là, caché. Et si je suis attentif à l'homme, à un moment donné, je suis en présence d'une réalité qui me dépasse complètement. C'est ça qui est extraordinaire. Vous voyez ce que le Saint-Père souligne toujours en disant « L'homme, je ne peux savoir ce qu'il est qu'en le dépassant. » Vous dépassez l'homme pour connaître l'homme. C'est très curieux. Parce que justement, l'homme est radicalement un animal religieux. L'homme est radicalement une réalité spirituelle. Il a son âme spirituelle. Et cette âme est ordonnée vers Dieu. Mais quand saint Thomas dit que l'intelligence humaine est là, on voit bien qu'on touche une sagesse philosophique. Capacité. Il est capable de regarder Dieu. C'est un privilège énorme. Si on savait reconnaître ce privilège, on dirait, mais c'est ça qu'on doit regarder avant tout. Et on comprendrait que faire de la philosophie, c'est une nécessité vitale pour mon intelligence, pour mon cœur. Je ne peux pas être moi-même, parfaitement moi-même, si je ne fais pas cette recherche de la vérité. fait petit à petit à comprendre ça. L'obéissance, au point de vue philosophique, c'est excellent, comme dit Aristote. C'est excellent pour les enfants et pour les femmes. Je cite Aristote, hein, je dirais pas ça, moi. Je modifierais, puisque depuis Aristote, elles sont beaucoup plus intelligentes. Elles ont essayé de rattraper le retard. Même si c'était pas de leur faute, du reste. Faute de la culture, la manière de regarder les choses. Hésiode dit que, comme il donne un bon conseil, quand tu te maries, fais attention. Il faut d'abord avoir une paire de bœufs. C'était uniquement des petits fermiers, des laboureurs, des éleveurs. Une bonne paire de bœufs. Et ensuite, une femme qui ne soit pas quelqu'un qui ne pense qu'à dépenser. Être dans la rue. Le frelon. C'est-à-dire celle qui ne travaille pas et qui est le frelon et qui dépense. Mais c'est très curieux et c'est intéressant de voir dans la culture grecque la place de la femme et de voir comment Marie, dans le point de vue chrétien, a donné à la femme situation très différente. Et là encore, c'est la philosophie qui donne à la femme sa véritable libération. Parce que elle a quelquefois un sens philosophique beaucoup plus poussé que certains hommes. On ne peut pas nier. Elle peut avoir un sens de la contemplation qui va beaucoup plus loin. Alors, elle est parfaitement elle-même. Donc, la première chose que nous devons comprendre, c'est que si nous faisons de la philosophie par obéissance, nous devons petit à petit comprendre que c'est une nécessité pour nous. Être parfaitement nous-mêmes, parce que la recherche de la vérité permet à notre intelligence d'être qualifiée de la qualité propre de l'intelligence dans cette recherche de la vérité. Un homme est une vraie personne humaine si elle recherche la vérité. Et la première recherche de la vérité, elle se fait dans la philosophie. C'est à partir de cette recherche de la vérité qu'on est en présence du point de départ de la philosophie. Et ça, c'est, je dirais, un avis universel. Je me souviens, parce que j'ai beaucoup enseigné l'histoire de la philosophie grecque. Quand j'ai commencé, on considérait Hésiode comme ne faisant pas partie de la philosophie. C'est un poète. Maintenant, on considère que Hésiode est le point de départ de la philosophie grecque. Pourquoi ? L'argument massif, c'est que Hésiode dit qu'il veut chercher la vérité et qu'il supplie les filles du soleil de venir l'aider dans cette recherche de la vérité. C'est intéressant de voir que la philosophie est née à travers une prière. Hésiode, Plotin, c'est les deux extrêmes de la philosophie grecque. attente de Dieu, elle est une sagesse. Il y a d'autres, évidemment, qui disent que toute la philosophie, c'est de nier l'existence de Dieu. Sartre. Et toutes les idéologies athées. Et ceci, c'est un phénomène tout à fait nouveau. C'est vrai. Dans l'histoire de la pensée, ce que nous vivons, ce que nous avons vécu avec toutes ces idéologies athées, c'est un phénomène tout à fait nouveau. C'est la philosophie qui se suicide. C'est la philosophie qui accepte de disparaître. Alors, si elle n'est plus sagesse, elle va chercher un soutien autre part que au-delà de l'homme. Elle cherchera dans l'homme. Il y en aura une philosophie de l'immanence pure. On aura une philosophie qui s'appuiera sur la logique. On aura une philosophie qui, à la place de rechercher la vérité, on aura une philosophie qui va s'appuyer sur ses propres raisonnements. Et ce sera la logique qui viendra le soutien propre de la philosophie à tel point que la métaphysique s'identifiera avec la logique. Voyez, on est très sensible actuellement à l'histoire de la philosophie européenne. Et je comprends du reste. Et c'est très intéressant de voir ça. Nous aurons l'occasion d'y revenir souvent. Parce que nous faisons de la philosophie aujourd'hui. Hein. Si j'aime Aristote, je ne me mets pas à la remorque d'Aristote pour savoir si la vérité philosophique, c'est d'être en conformité avec la pensée d'Aristote. Être en conformité avec la pensée d'Aristote, c'est un garde-fou. Je crois qu'Aristote est intelligent, beaucoup plus intelligent que beaucoup de professeurs de philosophie, je crois. Et l'épreuve, elle sera l'épreuve du temps. Je ne sais pas si les professeurs de philosophie d'aujourd'hui, dans 2000 ans, on en parlera encore beaucoup. Je ne sais pas. Certains peut-être. Mais l'épreuve du temps est une chose terrible. Terrible. Parce que c'est impitoyable. Tant qu'ils sont vivants, ça va. Mais dès qu'ils sont morts, ils sont dans la tombe. Et on met leurs bouquins et leurs livres avec leurs pauvres cadavres. Aristote nous aide. Platon nous aide. Tous les philosophes qui recherchent la vérité sont des amis. Tous. Dès qu'ils recherchent la vérité. Mais ce n'est pas la conformité avec Aristote qui est pour moi le lieu de la philosophie. Non. C'est la recherche de la vérité. Et Aristote est un témoin. Mais il n'est pas la vérité. Si Aristote était la vérité, être en conformité avec lui, ce serait faire de la philosophie. Yeah. notre philosophie doit être une philosophie pour aujourd'hui. Donc une philosophie qui tient compte de ce courant de philosophes qui ont nié l'existence de Dieu, de toutes ces idéologies athées. Je ne peux pas ne pas en tenir compte. Mais je ne considère pas ça du tout comme la partie principale de la philosophie. Je considère cela comme une errance terrible, puisque ce sont des aveugles qui veulent conduire des pauvres qui n'ont pas encore découvert la vérité. Et c'est vrai, quelqu'un qui affirme la non-existence de Dieu au plan philosophique, d'entre regarder ce petit berceau, Thalès. c'est dans cette lumière-là que je regarde l'homme. Le grand problème d'aujourd'hui, c'est de voir si ma philosophie est sageuse, comment elle l'est. C'est-à-dire, si mon intelligence est capable d'atteindre l'existence de Dieu, ou si au fond, mon intelligence par elle-même est incapable. Et ceci s'oppose avec acuité. Au Moyen Âge, c'était normal, parce qu'il y avait un milieu, un climat, une couleur qui portait vers l'existence de Dieu. Toutes les personnes un peu instruites, la plupart, étaient croyantes. Alors on était portés par le milieu. Mais aujourd'hui, où la majorité n'est plus croyante, et c'est vrai, dans les milieux de savants, dans les milieux médicaux, dans les milieux artistiques, dans les milieux où l'intelligence essaie de progresser pour elle-même, la plupart du temps, on est devant des milieux où l'homme revendique son autonomie de la manière la plus forte qui soit. Donc on est dans des milieux païens qui rejettent l'existence de Dieu. Alors, est-ce que dans ce milieu-là, mon intelligence a-t-elle assez d'autonomie, assez de force dans cette recherche de la vérité pour pouvoir se dresser devant cette influence si forte qui fait qu'on rejette l'existence de Dieu? Est-ce que mon intelligence a assez de vigueur et de confiance en elle-même pour affirmer l'existence de Dieu par elle-même, à contre-courant? Est-ce qu'on a assez de rigueur et assez de force pour chercher la vérité pour elle-même? Vous savez comment Peggy définit la philosophie? C'est le moment de le dire. Peggy n'est pas un philosophe, mais s'il est un homme intelligent, donc c'est encore mieux. Parce qu'il y a des philosophes qui sont professeurs de philosophie, qui ne sont pas très intelligents. Entre nous, hein. C'est bien évident. Puisque les examens ne sont pas des brevets d'intelligence. Il y a la bête à examen. Il y a un très bon moulin. Ça va pas se voir dire. Ça doit lui être tout à fait égal, je pense. Alors, Peggy définit le philosophe comme cela. Ça, c'est très beau. Il y a deux catégories d'hommes. Pas les progressistes et les traditionnalistes. Vous savez que cette distinction, c'est le mot d'ordre qui a été donné à Moscou avant le chapitre, avant le concile. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'aurais dû garder l'article. Je vous le montrerai. Parce qu'à Fribourg, il y avait un père polonais qui, au petit déjeuner, lisait la Pravda tous les jours. Alors quand on se mettait à côté de lui, fait les miettes un beau jour. Il me dit, regardez cet article. Alors, comme je ne savais pas le russe, il me l'a traduit en disant, ce concile poissonnait le gland du catholicisme. Il n'y a plus de chefs de gouvernement qui sont invités au concile qu'en avant. Alors il faut que nous agissions d'une manière astucieuse. Divisons l'Église en deux, les progressistes et les traditionnalistes. Mais il ne faut jamais oublier ça. Si je pouvais retrouver ce numéro d'Apravda, je l'enverrai à certains journalistes pour montrer qu'ils sont dans la ligne de Moscou, où Moscou était marxiste, et que ça demeure, et que ça a pénétré dans l'Église. Et alors, pays avant Moscou avait dit, il y a deux espèces d'hommes, ceux qui descendent le fleuve et ceux qui remontent à la source. C'est beaucoup plus intelligent. Ceux qui descendent le fleuve, on leur demande pourquoi ils font ça. Ils vous répondent, mais tout le monde le fait. Je connaissais un petit jeune artiste comme ça, en Suisse. Puis il était mis à l'art moderne. Je lui ai dit, mais pourquoi ce que tu faisais avant était tellement prometteur et si beau. Pourquoi tu as changé complètement? Et on sent très bien que c'est un peu artificiel. Il m'a simplement répondu, tout le monde le fait. Je lui ai dit, c'est triste d'être relatif à l'opinion de tout le monde. Ça prouve que tu n'as pas beaucoup de nerfs. Tout le monde le fait. Il y a des gens qui font comme tout le monde. Ils ne savent pas pourquoi. Et puis il y a ceux qui veulent remonter à la source. Et leur pays insiste. Si tu veux remonter à la source, accepte d'être seul. Si tu descends le fleuve, tu seras avec tout le monde, mais tu ne seras plus en recherche de la vérité. Et alors quand c'est dit à la manière du pays, c'est redit, redit, et c'est très fort. Et je crois que c'est vrai, le philosophe des pays cherche de remonter à la source. La source première de tout, c'est Dieu. Si vraiment le philosophe recherche la source, il va remonter jusqu'au bout. Mais il faut qu'il accepte d'être seul. Et ça, c'est dur. Et c'est pas commode. Tandis que descendre le fleuve, faire comme tout le monde, c'est facile. Il suffit de faire la planche. Alors faites la planche au plan recherche de la vérité. La source au plan de la recherche de la vérité. Oui, d'un excellent examen de conscience. dimension de l'homme. Si je fais de la métaphysique, nous verrons ça, c'est pour découvrir ce qu'est l'intelligence de l'homme. Si je fais de la métaphysique, c'est par amour pour la vérité et aller le plus loin possible.
Prendre
grâce à eux, je peux mieux comprendre les erreurs. Et surtout, je peux mieux comprendre la vérité. Et dans la lumière de la vérité, mieux comprendre les erreurs. Vous voyez, il y a un discernement à faire. Étant donné qu'on a tellement peu de temps pour prendre des maîtres, intelligents qui cherchent la vérité. Mais si déjà vous prenez tout le temps quelqu'un qui explicitement recherche la vérité, il y a beaucoup de chances que vous perdriez beaucoup moins de temps que ceux qui cherchent la certitude. Descartes cherche la certitude. Aristote cherche la vérité. La philosophie, c'est la recherche de la vérité et de la vérité dans son absolu. Et donc, c'est l'homme, la réalité la plus parfaite que j'expérimente et que je peux connaître. C'est l'homme qui me permettra d'aller le plus loin possible dans la recherche de la vérité.
Second.